C'est bien un sujet qui peut animer un dîner, voire l'enflammer. C'est bien évidemment la politique, mais aussi la politique des transports. Aujourd'hui, on sait que les transports, c'est un énorme problème de carbonation de notre société, évidemment. Et en même temps, on ne sait pas du tout comment prendre de la hauteur sur ce sujet et comment l'analyser. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Aurélien Bigot, qui est un jeune chercheur, sans doute le chercheur le plus intéressant de sa génération sur la transition énergétique des transports. Et avec Aurélien, on va parler d'énormément de sujets. J'ai essayé de traiter au plus possible, parce que ça nous touche tous au quotidien. Donc on va parler évidemment des voitures, on va parler de l'avion, on va parler de la moto, on va parler des scooters, on va parler des trottinettes, on va parler du train, on va parler des moyens de locomotion lents, on va parler de la marche, évidemment. Mais aussi on va parler de l'organisation de notre société. Bref, vous allez voir, c'est une conversation qui est hyper intéressante, très accessible évidemment, comme toujours, j'essaye. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Comment tu vas aujourd'hui?
Très bien, et toi?
Pas mal du tout, je te remercie. Peut-être la première question qu'on peut se poser, c'est de savoir, on en est où de la stratégie bas carbone aujourd'hui en France?
Oui, alors la stratégie nationale bas carbone, c'est un document en France qui représente la stratégie climat du gouvernement actuellement. Sur le secteur des transports, il y a un objectif qui est ambitieux à l'horizon 2050. En gros, c'est d'arriver à quasiment zéro émission directe dans le secteur des transports. Donc les émissions directes, c'est les émissions en sortie de pots d'échappement des véhicules, en gros. Et ça implique notamment que dans l'ensemble des transports terrestres, ils soient complètement décarbonés en 2050. Donc qu'il n'y ait plus une seule goutte de pétrole, aussi bien dans les voitures, dans les poids lourds, les véhicules utiles, utilitaires légers, les bus, les cars, les trains, les deux roues motorisées ou encore les bateaux de transport fluvial. Donc on est sur un défi qui est majeur en l'espace de 28 ans. Désormais, on doit sortir du pétrole pour tous ces modes de transport-là, alors qu'aujourd'hui, le pétrole, c'est plus de 90% des consommations d'énergie du secteur. Donc c'est vraiment le carburant de la mobilité, le carburant des transports.
La première question qui me vient, c'est est-ce que c'est le bon combat ? Parce qu'en fait, je me dis, enfin, plusieurs choses. D'abord, je me dis, et j'ai posé aussi des questions très basiques finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas garder une voiture qui existe déjà, qui n'est pas électrique, versus une voiture électrique ? Parce qu'en fait, une voiture électrique, il faut la produire, donc ça nécessite de l'énergie. Enfin, je veux dire, une voiture, pour la produire, il faut quand même de l'énergie.
Ouais.
Elle va pas se transformer, enfin, l'acier ne va pas se transformer en voiture tout seul. Tous les éléments qui sont à l'intérieur de la même manière. Donc déjà, j'ai cette première question. Est-ce que c'est un bon combat ? Par ailleurs, toi, tu parles, ce que tu dis, c'est que c'est émission directe, mais du coup, il y a une problématique d'émission indirecte qui est pas très bien comprise, j'ai l'impression, des personnes qui écoutent, enfin, pas les personnes qui écoutent, mais en tout cas, des personnes de manière générale. J'entends qu'on s'arrête à la voiture électrique et on réfléchit pas vraiment d'où vient cette électricité et du coup, l'impact que a cette électricité. La première... Deuxième, du coup, question, ça serait, est-ce que c'est un bon combat ? Est-ce que c'est le bon combat, selon toi ?
Alors, bon combat, je dirais oui, parce que c'est le combat du changement climatique. En gros, si on ne sort pas des énergies fossiles de manière générale, on ne réussira pas à atteindre nos objectifs climatiques. Donc, on s'oriente vers un réchauffement de plus 2, plus 3, plus 4, voilà, selon à quel point on continue à beaucoup consommer d'énergie fossile. Donc, ça implique que dans les transports, notamment, il faut sortir du pétrole. Ça, c'est un incontournable si on veut réduire les émissions et réduire l'impact des transports sur le climat. Après, pour autant, ce n'est pas le seul des combats. Et par exemple, en effet, la voiture électrique, par exemple, ne résout pas le problème du climat pour les transports sans revoir plus globalement de quelle manière on se déplace, comment on change aussi le transport de marchandises. Donc il y a d'autres, si on cite un peu les autres combats qu'il peut y avoir, disons, sur les transports, il y a des problématiques de pollution de l'air aussi. Donc ça, le fait de passer, par exemple, à l'électrique ou le fait de se séparer du pétrole, c'est quand même, ça va dans le bon sens aussi sur la pollution de l'air, parce que la plupart des émissions aujourd'hui viennent de l'échappement des véhicules aussi, de la combustion du pétrole. Après, il y a aussi des enjeux en termes de consommation de ressources. Le pétrole, de toute façon, il faut aussi s'en séparer pour des questions d'épuisement des ressources ou de contraintes de manière générale qu'on a déjà depuis pas mal d'années sur les approvisionnements en pétrole, sur le coût du pétrole et puis les contraintes.
Et puis la dépendance géopolitique aussi.
Les dépendances géopolitiques qu'il y a en lien avec ça. Après, il y a des enjeux en termes de consommation d'espace aussi. Les infrastructures de transport, ça prend beaucoup de place. Ça fragmente aussi les paysages ou les espaces naturels. Et du coup, ça a des impacts aussi sur la biodiversité par ce biais-là. La voiture prend particulièrement de place aussi en circulation, aussi en stationnement. Du coup, il y a énormément d'espace public qui lui est dédié, notamment dans les villes. Et ça veut dire que ça, si on veut rééquilibrer l'espace public pour donner plus de place à d'autres modes de transport, la marche, le vélo, les transports en commun, il faut prendre de la place à la voiture. Et potentiellement ça peut être aussi de penser l'espace public pour autre chose que uniquement des fonctions de circulation, des fonctions de transport, mais par exemple pour les terrasses, pour donner de la place aux enfants, pour circuler en sécurité en ville, pour jouer, etc. Aussi redonner de la place à davantage de végétalisation pour mieux s'adapter au changement climatique, aux vagues de chaleur, etc. Tout ça, ça interroge l'usage de l'espace public. Et donc ça, c'est une question majeure où ça demande d'interroger la place qu'on donne à la voiture et du coup, quelle place aussi a la voiture dans nos mobilités. Ensuite, il y a des enjeux aussi en termes de pollution sonore. Ça, c'est quelque chose, c'est une thématique qu'on aborde assez peu en général. Pourtant, il y a bien évidemment des choses qu'on connaît de gênes liées au bruit, de stress que ça peut engendrer, de problèmes auditifs qu'il peut y avoir, mais il y a aussi des problèmes de santé plus globaux qui sont aussi liés à la pollution sonore. Donc, c'est vraiment une vraie pollution dans le sens où ça a vraiment des impacts sur la santé en termes d'obésité, en termes de maladies cardiovasculaires qu'il peut y avoir aussi via cette pollution sonore. Non, oui. Il y a des enjeux en termes de santé publique aussi en termes d'activité physique, de sédentarité ou plutôt d'inactivité physique. En gros, on a 95% de la population française qui a des niveaux de sédentarité ou d'inactivité physique qui présentent des risques pour la santé, dans le sens où on n'est pas assez actif. Et ça, c'est lié à nos modes de vie de manière générale. On est trop souvent globalement assis, que ce soit devant un écran pour le boulot, que ce soit devant un écran pour regarder la télé, l'ordinateur, etc. Ou que ce soit dans nos mobilités. Avec notamment la voiture qui domine et qui est un mode de transport inactif. Et donc retrouver par exemple des mobilités plus actives telles que la marche et le vélo, ou dans une moindre mesure aussi les transports en commun qui souvent nécessitent d'aller jusqu'à une station, plus souvent à pied, etc., ou qui nécessitent dans les changements notamment d'avoir un peu plus d'activité physique. Ça aussi, c'est aussi un enjeu de santé publique qui est important. Il y a toute la question de l'accidentalité, notamment accidentalité routière qui en termes de nombre de décès chaque année ne baisse plus en gros depuis 10 ans quasiment. Et puis après, il y a des enjeux de transition sur les aspects plus sociaux, d'accès à la mobilité, donc d'inégalité sociale qu'il peut y avoir, d'inégalité territoriale, d'inégalité dans l'accès à la mobilité qui peut dépendre aussi du genre, des compétences de mobilité, qui peut dépendre aussi pour les personnes à mobilité réduite, quel est l'accès aussi qu'on leur donne à la mobilité, à quel point les infrastructures, les mobilités sont adaptées à ce type de public-là. Donc voilà, en gros, quand on voit ce paysage-là, il y a tout un tas d'enjeux qu'il faut réussir à prendre en compte dans la transition si on veut répondre simultanément à plusieurs enjeux et ne pas avoir une focale que climat, qui est bien sûr un enjeu très structurant, majeur, étant donné que les transports, par exemple en France, représentent de l'ordre de 30% des émissions. Mais pour autant, il ne faut pas oublier les autres problématiques de transition.
Ouais, clairement, parce qu'en fait, moi j'ai toujours tendance à dire que si on inventait, et on n'est pas loin de le faire, une énergie qui serait complètement décarbonée, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on a tendance à réduire, dans l'espace public en tout cas, ou dans les médias, la problématique du climat avec la problématique de la lutte contre le CO2. Et en fait, on n'est pas très loin de réussir à inventer l'énergie de fusion, donc une énergie décarbonée, qui génère aucun déchet, qui est en pleine sécurité, il n'y a aucun risque d'accident nucléaire. On ne le maîtrise pas encore, mais potentiellement on pourrait le maîtriser, mais pour moi ça serait la plus mauvaise nouvelle qui pourrait nous arriver. Je sais pas, la plus mauvaise nouvelle, mais en tout cas, ce serait une bonne nouvelle, sans doute, mais ça voudrait dire qu'on continuerait sans doute à consommer comme on consomme aujourd'hui, et donc à détruire l'écosystème dans lequel on est. Et en fait, on sait bien que comme on est des animaux et qu'on dépend de cet écosystème, si on le détruit, naturellement, ça fonctionne plus, quoi.
Ouais, complètement. En tout cas, Je dirais que les enjeux environnementaux sont réduits au climat. Après, dans le climat, il y a surtout le CO2, il y a aussi d'autres gaz à effet de serre, tels que le méthane, un peu le quoi, protoxyde d'azote aussi, ou d'autres gaz à effet de serre. Mais c'est sûr que sur les enjeux environnementaux, on est loin d'avoir que l'enjeu climatique. Il y a des enjeux en termes de ressources, des enjeux en termes de santé environnement, des enjeux en termes de biodiversité. Et en fait, quand on creuse un peu ces sujets, on voit bien que c'est des enjeux qui sont complètement majeurs et qu'il y a un peu un discours, à mon avis, qui est assez réducteur par deux aspects, voire mensonger, à la fois sur le fait qu'on on réduit la crise environnementale au climat, comme tu l'évoquais. Et puis, le discours, c'est aussi de dire que la technologie va résoudre le problème climatique. Et en fait, les deux sont des énormes biais qui nous empêchent de traiter les crises environnementales à la hauteur des enjeux, parce que du coup, on a une sorte d'inaction climatique, d'inaction même plus générale sur les enjeux environnementaux, dans le sens où on questionne pas notamment tout ce qui est levier de sobriété, comment restructurer un peu en termes de mode de vie, de mode de consommation, de mode de production, toutes ces choses-là qu'il faut changer si jamais on veut réduire notre impact global sur la biodiversité, sur les ressources qu'on a un peu dans tous les secteurs, que ce soit le secteur des transports, mais aussi dans les autres secteurs.
Parce qu'en réalité, j'ai toujours l'impression on essaie de trouver des pansements, mais des quick fix. C'est-à-dire un peu dans cette logique un peu moderne, dans le sens des lumières, c'est-à-dire dans l'analyse, c'est-à-dire qu'on trouve un problème, on trouve une solution. Et en fait, moi, de la manière dont je regarde, j'ai l'impression qu'il faut qu'on change notre rapport au monde. Et du coup, forcément, la voiture électrique, c'est super parce qu'on continue à faire la même chose, mais dans une voiture électrique, ou sur une trottinette, ou sur un vélo électrique. Moi, quand je vois des gens en trottinette ou en vélo, ce que j'utilise aussi parfois, j'ai l'impression de voir Wall-E. Tu te souviens de ce film, de cet animé, où en fait ils sont hyper obèses dans leur truc, dans leur petite voiture électrique là, parce qu'il y a effectivement aucune activité. j'ai cette sensation que on passe un peu à côté du problème, effectivement. C'est un peu le sujet. Toi, tu as travaillé sur 5 leviers, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. Mon angle principal, c'est de regarder la transition énergétique des transports. Et pour ça, il y a notamment, dans la stratégie nationale bas carbone, notamment, il y a 5 leviers qui sont cités, ou pour lesquels il y a plus ou moins d'ambition dans cette stratégie sur les 5 leviers. Mais en gros, c'est 5 manières de réduire les émissions de CO2. C'est pas soit l'une, soit l'autre. En gros, il faudra combiner les 5 si on veut réussir à rattraper le retard qu'on a sur les émissions de CO2. Et pour anticiper ou pour suivre un peu par rapport à ce qu'on se disait sur le fait qu'il n'y a pas qu'un défi de transition climatique, ces 5 leviers, pour une partie d'entre eux aussi, peuvent permettre de résoudre les autres défis de transition qu'on a. Donc en gros, dans les 5 leviers, il y a la modération de la demande de transport. Donc ça, c'est le premier des leviers. C'est de se questionner sur notamment les distances qui sont parcourues pour la mobilité des voyageurs, en sachant que les distances sur les dernières décennies ont explosé, notamment en France. On fait beaucoup plus de distance que par le passé. Si on prend un recul de 2 siècles, en gros, on fait 10 à 12 fois plus de kilomètres aujourd'hui qu'il y a 2 siècles. Il y a 2 siècles, on se déplaçait, on faisait 3-4 déplacements par jour en moyenne, on se déplaçait 1 heure par jour en moyenne. Et ça, c'est toujours le cas, ça n'a pas vraiment changé. Par contre, maintenant, on a une vitesse moyenne des mobilités qui est 10 à 12 fois plus élevée. Et en gros, on n'a pas vraiment profité de cette accélération hyper forte des mobilités pour passer moins de temps dans les transports, puisqu'on est toujours à peu près à 1 heure par jour et par personne, mais plutôt pour aller plus loin, pour étendre les distances. Et donc ça, c'est tout ce facteur qu'on appelle demande de transport. En réalité, c'est à la fois de l'offre et de la demande, c'est en tout cas des kilomètres qu'on parcourt. Et bien, ces distances ont énormément augmenté par le passé, et c'est ça qui a porté à la hausse les émissions de CO2, mais tout un tas d'autres impacts qu'on a évoqués, les consommations de ressources de manière générale, la pollution, la consommation d'espace aussi, parce que du coup, il faut plus d'infrastructures, ça prend plus de place aussi d'avoir une utilisation aussi intense des différents modes de transport. Donc ça, des coûts de la mobilité qui sont aussi importants en lien avec ces fortes distances de déplacement, une pollution sonore aussi qui est liée à ces distances. Donc voilà, en gros, on a cette hypermobilité, entre guillemets, qui est un peu à la base de beaucoup des impacts qu'on a. Et ça, c'est un peu le grand tabou, finalement, quand on parle de transition énergétique des transports. Souvent, quand on dit transition énergétique des transports, la première chose qui peut venir en tête des gens, c'est bon, bah, là, on va changer d'énergie. Du coup, on va passer du pétrole à l'électrique, à l'hydrogène, au biocarburant, au biogaz, etc. Ce qui est une partie de la transition, mais ce qui est loin d'être le seul levier. Donc, premier levier, déjà, modération des distances, retrouver davantage de proximité dans l'aménagement, dans les modes de vie, etc. Donc ça, c'est des transformations déjà qui sont assez majeures et qui sont assez peu sollicitées pour le coup.
Moi, j'ai l'impression que ça, c'est quasiment le... Enfin, tu effectivement, tu cites en premier, mais pour moi, c'est vraiment le cœur du réacteur, entre guillemets, si on peut dire ça comme
c'est ça.
C'est ça. Mais en fait, ça me fait penser à plusieurs choses. Ça me fait penser au... J'avais vu une étude, alors, mais je ne connais plus le chiffre, du nombre de kilomètres moyens entre la personne avec qui tu te mets en couple et toi. Et en fait, ce nombre moyen de kilomètres, il a explosé de la même manière que ce que tu décris. Mais ce n'est pas trop là où je voulais en venir. J'ai fait un épisode avec Xavier Emmanueli, qui est le fondateur du SAMU Social. Et lui, il parlait de l'hôpital en particulier et du fait qu'on avait tout centralisé. Et en fait, on a tout centralisé, les bureaux, les écoles, les hôpitaux. Et ça, en fait, et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment reprocher aux individus, parce qu'en fait, c'est systémique. C'est-à-dire qu'en fait, le système fait qu'en sans voiture, et en particulier, je pense aux personnes qui sont en province ou dans des zones qui ne sont pas ultra-urbaines comme Paris, là où on est, ben du coup, t'es obligé d'avoir une voiture. Enfin, c'est impossible de pas avoir de voiture. Tu peux pas vivre, entre guillemets, sans voiture. Voilà. Enfin, ça peut être une position politique, mais c'est très compliqué. C'est beaucoup plus simple quand, effectivement, tu vis dans Paris, voilà, bon, ben, ou j'imagine à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, et encore Marseille, c'est tout relatif, ou à Bordeaux ou autre, mais quand, voilà, et ça, c'est une problématique qui doit être prise au niveau des services publics, enfin, du gouvernement, et puis, Ça a des impacts qui sont quand même majeurs, de remettre de la localité un peu partout.
Complètement. Bah, en fait, on peut citer plusieurs tendances en fait, sur l'aménagement du territoire qui a globalement été construit par la voiture. Donc, on n'aurait pas fait cet aménagement du territoire-là sans la voiture. Et du coup, pour la voiture, c'est qu'une fois qu'on est un peu dépendant de cet aménagement du territoire, ça ne se change pas du jour au lendemain. On peut stopper les tendances qui vont dans le mauvais sens, qu'il faudrait déjà faire dans un premier temps, et puis recréer des cercles plus vertueux dans le sens de davantage de proximité. Mais en gros, les tendances des dernières années ou des dernières décennies et de la fabrique de cet aménagement du territoire par la voiture, c'est à la fois quelque part un certain étalement urbain notamment, donc avec quelque part une augmentation des distances parce que les logements sont plus loin des centres-villes notamment. Il y a aussi une question d'éparpillement aussi, c'est qu'en gros cet étalement, il s'est pas fait le long d'axes de transport en commun ou voilà de manière très structurée le long de lignes qui auraient pu permettre de mettre des transports en commun efficaces, ouais, mais ça s'est plutôt
ensemble.
Dispersé.
Ouais.
Voilà. Mmh. Ça s'est dispersé, les activités, les logements se sont dispersés, les emplois aussi, donc ça rend plus compliqué aussi le fait d'avoir des transports en commun efficaces. Ensuite, il y a un troisième élément, c'est qu'on a eu tendance à fonctionnaliser les espaces, c'est-à-dire que certaines zones qui sont des zones résidentielles, il y en a d'autres qui sont des zones commerciales, il y a des zones industrielles, il y a des zones d'activité voilà, diverses. Donc en gros, on a différents pôles, soit dans la ville ou à l'échelle d'un territoire, qui nécessitent, à chaque fois qu'on change d'activité, du coup, de faire des distances assez importantes pour aller d'une fonction à une autre et du coup à différentes zones. Donc ça aussi, ça a participé à l'allongement des distances. Et puis le dernier effet qui fait référence à ce que tu disais, par exemple, sur l'hôpital, sur les écoles, etc., c'est un peu le côté métropolisation qu'on a eu au niveau global, mais qui peut se retrouver à un niveau un peu plus des villes ou des régions, etc. C'est en tout cas le fait qu'on a eu tendance à concentrer l'attractivité, l'emploi, les services, etc., les commerces, dans les plus grosses villes. Et que du coup, bah, y a moins de dynamisme et moins de services, d'emploi, etc., dans les villes moyennes, dans les petites villes qui ont perdu en dynamisme. Et du coup, ça fait que les habitants de ces zones-là sont potentiellement davantage obligés de faire des longues distances pour aller dans la métropole la plus proche, etc., où il y a ce dynamisme, ces emplois, cette activité économique, etc. Mmh. Et donc, en fait, toutes ces tendances-là accumulées, ça fait que Il y a une dépendance à la voiture qui est hyper forte dans la mobilité et qu'il est, à, surtout au niveau individuel, potentiellement très difficile, voire impossible, quoi, quasiment impossible dans certaines situations, de ne pas être dépendant de la voiture, ou en tout cas de véhicules qui ressemblent potentiellement à la voiture. Parce qu'après, je pense qu'il y a aussi d'autres imaginaires et d'autres types de véhicules à développer à l'avenir. On n'a pas forcément besoin d'un SUV, on a besoin de, oui, disons, d'une fonction de déplacement avec un véhicule qui permet de faire ce type de déplacement, etc. Après, il y a eu plein d'évolutions qui ont été dans un peu dans la surenchère de consommation de ressources sur cette voiture, alors qu'on aurait pu bien sûr éviter cette dépendance et puis faire en sorte que ce soit fait sinon avec des véhicules un peu plus sobres que ce qu'on a aujourd'hui.
Ouais, on y reviendra, mais effectivement il y a aussi cette problématique du poids des voitures. Mais donc ça c'est le premier point.
Ça c'est le premier levier parmi les cinq.
Parmi les cinq, passons au deuxième.
Mais il est très structurant. Non, après, mais il est hyper structurant. Pour beaucoup d'autres choses. Le deuxième levier, c'est celui qu'on appelle le report modal. Donc c'est en gros le report d'un mode de transport à un autre. Donc si on veut réduire les émissions, aller dans le sens de la transition, moins d'utilisation de la voiture, moins d'utilisation de l'avion, et puis davantage en gros les transports actifs et collectifs. Donc actifs, la marche et le vélo, et puis collectifs, les transports en commun tels que le train, tels que le bus, le car. Donc ça c'est un peu le deuxième levier qui va dépendre quand même pas mal du premier, de la demande de transport, parce que comme on a à la fois eu des tendances à l'allongement des distances, ça disqualifie au moins en partie, en tout cas, ça rend plus compliqué, disons, la marche et le vélo qui sont plutôt faciles sur des plus courtes distances. Et puis aussi les transports en commun, parce que, comme je disais, comme il y a un certain éparpillement, ça fait qu'il y a plus de difficultés à avoir des lignes structurantes qui sont vraiment des axes de transport en commun efficaces dans tous les territoires. C'est difficile de mettre ça en place une fois que les activités sont et les logements sont assez éparpillés. Donc ça, c'est le deuxième des leviers.
Et ça me fait penser en particulier aux personnes qui sont en zone périurbaine, c'est-à-dire qu'en fait, qui sont des gros consommateurs de voitures parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. En fait, il y a plein de gens où on leur dit prenez le RER, prenez le train. Mais en fait, la réalité, c'est que en dehors du fait que c'est complètement blindé, que ce n'est pas nécessairement à l'heure, que ça génère plein de problèmes d'insécurité, etc., etc., c'est, parfois, tu ne vis pas à côté d'une gare. Il faut quand même y aller à cette gare. Enfin, je veux dire... Et tu peux être à une demi-heure à pied. Enfin, je veux dire, c'est quand même, ça peut être loin. Je veux dire, quand tu vis en banlieue. Et ma mère, moi, et puis moi, je viens de la banlieue. Donc, et je vois bien à quel point c'est sympa sur le papier, mais dans la réalité, c'est hyper compliqué. Et je pense qu'on pense, quand on pense urbain, on pense pas nécessairement à ces personnes qui sont les personnes qui travaillent pour les Parisiens. Enfin, je pense à Paris là parce que je suis parisien, mais toutes ces personnes qui travaillent pour les Parisiens. Mmh. Mais qui n'ont absolument pas les moyens de vivre dans Paris et qui donc sont contraints de prendre des moyens de transport et souvent la voiture, parce qu'en fait c'est hyper compliqué pour eux de sachant que les transports ne marchent pas toute la journée, en particulier la nuit, etc., etc. Donc il y a aussi ce truc-là, non?
Oui, complètement. En tout cas, la dépendance à la voiture, elle est particulièrement forte dans les zones peu denses ou dans les zones moyennement denses, telles que le périurbain. Encore plus potentiellement dans le milieu rural. C'est vrai qu'en lien avec la métropolisation que j'évoquais tout à l'heure, en gros, les principales alternatives à la voiture, elles sont beaucoup dans les métropoles ou en lien avec les métropoles. En gros, sur la longue distance, on a développé le réseau TGV, notamment entre ces grandes métropoles. C'est clairement des mouvements qui ont accéléré cette métropolisation, quoi. C'est dans cette dynamique-là que ça a été fait aussi. Et puis, à l'intérieur des métropoles, c'est dans les plus grandes villes, notamment dans le centre des plus grandes villes, quand la densité est importante, que les alternatives à la voiture sont aussi les plus développées, parce que la marche et le vélo sont plus développés, parce que les distances sont plus courtes, parce qu'il y a plus d'aménagement aussi, c'est plus difficile, quoi. En fait, la densité contraint à donner des alternatives à la voiture, parce que la voiture prend beaucoup de place. Donc, plus c'est dense, plus naturellement, de toute façon, il y a d'intérêt, d'incitation à développer les alternatives. Et puis, dans les métropoles, comme il y a une densité de population, une densité de déplacement qui est importante, eh bien, c'est plus efficace, plus facile aussi pour mettre en place des transports en commun. Alors que si on est dans des zones rurales où il y a des flux de déplacement qui sont beaucoup plus faibles, même si on met une offre de transport en commun abondante, potentiellement, elle sera peu utilisée si jamais il y a peu de flux de population de manière générale. Donc ça veut dire qu'il faut penser un peu différemment les alternatives dans ce genre de zones-là, mais qui sont un peu structurellement plus fortement dépendante au véhicule individuel ou à la voiture.
Donc ça, c'est le point 2.
C'est ça, le point 2.
Le point 3.
Le point 3, c'est l'amélioration du remplissage des véhicules. Donc pour la voiture, c'est de faire du covoiturage davantage. Dans des zones, justement, on parlait à l'instant des zones peu denses ou des zones moyennement denses, quand les transports en commun, justement, ne sont pas suffisamment adaptés ou efficaces parce que les flux sont trop faibles, potentiellement, là, il peut y avoir un intérêt fort pour le covoiturage, avec toutes les difficultés de mise en œuvre, après, de réussir à faire en sorte que le covoiturage se massifie, se développe, etc.
Je l'accepte aussi, hein, socialement, c'est pas... Enfin, la c'est voiture ça. Individuelle, ça a été vraiment bâti sur le mythe de l'individualisme, etc.
C'est ça la difficulté des choses à changer aussi pour faire en sorte que l'avenir ne soit pas que de la voiture individuelle, même si elle est électrique, qui ne résoudra pas plein de sujets qu'on a évoqués tout à l'heure parmi les différents défis de transition. Donc le covoiturage, sur le papier, il y a un potentiel qui est énorme, parce qu'on voit qu'en moyenne, les voitures sont peu remplies, d'autant plus pour les trajets du quotidien, et encore plus, par exemple, pour les trajets domicile-travail, en moyenne, c'est 1,1 personne pour les trajets domicile-travail par voiture. Donc ça veut dire 9 voitures sur 10. En gros, il n'y a que le conducteur ou la conductrice à l'intérieur. Donc on voit bien qu'il y a un potentiel de place libre dans ces voitures qui est assez énorme. Après, c'est toute la difficulté de la mise en œuvre pour réussir à développer ce covoiturage. Donc ça, c'est le point, le levier numéro 3. Le quatrième levier, c'est de réduire les consommations d'énergie des véhicules. Donc il y a là-dedans à la fois des leviers qui sont assez techniques, donc c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Mmh. On réduit les consommations via des technologies plus efficaces, donc soit en améliorant le rendement des moteurs thermiques, c'est ce qu'on a beaucoup fait par le passé, soit en électrifiant aussi les véhicules, ça ce sera une partie aussi, quoi. En gros, l'électrique permet d'avoir des moindres consommations d'énergie par rapport aux moteurs thermiques, qui est globalement assez inefficace. Et puis l'autre aspect de ces baisses de consommation d'énergie des véhicules, c'est un aspect plus de sobriété, typiquement de réduire les vitesses sur les routes. Par exemple, quand on parle du 110 km/h, c'est notamment ça, il y a des gains de consommation d'énergie. Quand on fait de l'éco-conduite aussi, ça rejoint un peu cette question de la vitesse. Et puis quand on passe à des véhicules plus légers aussi, donc la baisse du poids des véhicules, ça c'est un levier assez majeur. Et notamment, je pense, comme on parlait des zones rurales, quand il y a vraiment une dépendance à la voiture qui est forte, que les flux ne sont pas suffisants pour même faire du covoiturage, donc pour partager les trajets, ça veut dire qu'en gros, on est dans des situations où on est sur de la mobilité en gros individuelle. Eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas besoin, quoi, en tout cas, ce n'est pas le plus pertinent d'avoir une voiture qui fait 5 places, qui peut aller à 180 km/h, qui pèse plus d'une tonne, et potentiellement en plus qui, pour les voitures électriques qui sont en train d'être développées, qui a plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie, alors qu'en comparaison, et même en zone rurale, les usages sont pas du tout, nécessitent pas des véhicules de ce calibre-là, surtout quand ce sont des trajets avec une personne ou deux à l'intérieur du véhicule, sur quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres, à 80 km/h maximum dans la majorité des trajets. Donc, en gros, on peut passer à des véhicules qui sont beaucoup plus sobres. Et selon moi, il y a un des potentiels qu'on a très peu exploré jusqu'à maintenant, c'est d'explorer aussi le potentiel de véhicules un peu intermédiaires entre le vélo et la voiture. Donc qui par rapport à la voiture sont beaucoup plus légers, beaucoup plus sobres en ressources, qui sont éventuellement avec moins de place à l'intérieur, des autonomies qui sont plus faibles, mais qui sont suffisants pour les trajets du quotidien, qui sont bien moins coûteux aussi vraiment à la fois à l'achat et à l'usage, et puis qui en comparaison du vélo classique permettent soit d'aller plus vite, d'être plus confortable, d'avoir un peu plus d'emport de charge ou d'emport de pouvoir emporter aussi des enfants, de pouvoir être protégé des intempéries pour certains de ces véhicules. Donc il y a en gros une très grande diversité de véhicules qu'on peut développer entre le vélo et la voiture, qui pourrait s'adapter un peu à la diversité d'usages qu'on a aujourd'hui, plutôt que d'avoir en gros la voiture qui vient répondre à plein d'usages hyper différents pour lesquels elle est souvent assez largement surdimensionnée.
Parce qu'effectivement, alors il y a plusieurs choses. Déjà, il y a vraiment cette phrase de qui peut le plus peut le moins. Donc en fait, généralement, on va se dire, oui, mais quand même, le jour où j'aurais besoin de... Mais en fait, je crois, je connais plus la stat, je crois que c'est 50% des trajets qui sont faits en voiture sont des trajets de moins de 2 km, c'est ça ou...
Alors, un peu plus que ça, les... Quoi ? Un peu plus que ça, un peu plus que 2 km. Les chiffres que j'ai en tête de la dernière enquête nationale sur la mobilité des personnes, là, qui date de 2019, c'est qu'en gros, 55% de nos trajets font moins de 5 km. Donc ça, tout confondu, que ce soit la voiture ou les autres modes de transport.
Et pour mémoire, c'est une heure à pied, hein, 5 km.
Ouais, c'est ça.
À peu près.
Et puis, il y a 72% des trajets qui font moins de 10 km. Donc, si par exemple on est sur du vélo assistance électrique, ben, on peut aller jusqu'à 10 km.
Sans problème.
Voilà, ça peut se faire. Au-delà, il y en a qui le font même sans assistance électrique, mais bon, on est sur un profil plus sportif. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a énormément de trajets qui ne sont pas aussi longs que ce qu'on imagine. Après, en proportion de l'ensemble des kilomètres, c'est une part qui est plus importante, parce que là, on parle en nombre de trajets, donc il y en a énormément qui sont courts, mais par contre, les trajets longs, en proportion des kilomètres totaux qui vont être parcourus, là, c'est une part qui est plus significative. Mais en tout cas, on a un potentiel pour tourner une grande partie de nos trajets vers davantage de marche, de vélo ou bien de véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture, comme j'évoquais, qui est quand même assez énorme à l'avenir. Et l'enjeu, c'est là où il y a un lien avec le véhicule électrique, c'est qu'en gros, le véhicule électrique, si on essaie de juste le caler sur les mêmes usages que la voiture thermique, on va se priver de tout un tas de bénéfices environnementaux qu'on pourrait avoir via cette transition, ou plutôt on va rajouter certains impacts en termes de consommation de ressources, de consommation de métaux. En gros, ce qu'il faut, c'est plutôt calibrer le véhicule électrique pour les usages majoritaires du quotidien, et puis pour les quelques trajets à plus longue distance, et bien là, de passer à d'autres mobilités ou à de la location de véhicules, etc. Donc en gros, ce que nous montre la dernière enquête, aussi un autre élément, c'est qu'il y a seulement 1,2% de nos déplacements, de nos trajets, qui se font à plus de 80 km du domicile. Donc c'est vraiment une petite part des déplacements qui sont vraiment, en gros, ce qu'on appelle à longue distance, au-delà de 80 km. Et chaque année, les Français font en moyenne autour de 6 déplacements, 6 voyages à plus de 80 km de leur domicile. Donc on pourrait se dire, si déjà on développait des véhicules électriques avec une autonomie relativement limitée, disons 100 km pour aller jusqu'à cette limite en gros de 80 km du domicile, on aurait en tout cas des consommations de ressources qui sont moins élevées par rapport au développement de ces véhicules électriques, et puis il y aurait quelques trajets, quelques voyages par an où il faut trouver autre chose que la voiture pour les gens qui seraient ou autre chose que ces véhicules là pour les gens qui seraient dépendants au quotidien. Et à ce moment là c'est de développer le train davantage qu'aujourd'hui, développer les cars, développer le covoiturage aussi, qui peut permettre du coup d'utiliser aussi la voiture, mais sous une autre forme sur la longue distance, ou bien sinon de développer l'autopartage, la location, si quelquefois dans l'année on a besoin d'un trajet à plus longue distance avec plus que deux personnes à l'intérieur du véhicule, d'avoir ces locations si jamais on n'a pas besoin de ce type de véhicule au quotidien, en tout cas, ou dans la majorité des usages du quotidien.
Ce à quoi ça fait penser, c'est aussi que les voitures électriques qu'on a développées, ou que les constructeurs ont développées, c'est surtout des voitures électriques qui ressemblent beaucoup à ce que les gens demandent aujourd'hui, ce qui est assez logique parce que c'est des marketeurs, c'est-à-dire beaucoup de SUV, mais qui sont des voitures qui sont hyper lourdes. Toi, tu parles depuis tout à l'heure des voitures légères, mais ce qu'on voit aujourd'hui dans les personnes qui sont toutes seules dans leur voiture, c'est quand même des très grosses voitures. Et ça, en fait, moi j'avais une question auquel tu m'as répondu en off, mais du coup je vais te la poser en live parce que je pense que ça va intéresser tout le monde. Moi je me posais la question, est-ce qu'il vaut mieux avoir une voiture thermique très légère, genre, j'imagine une 2 chevaux par exemple, ou j'en sais rien, je connais pas le nom des voitures électriques, mais enfin tu vois, une grosse voiture électrique, une sorte de SUV électrique ou une Tesla là, qui a pesé deux tonnes en l'occurrence, et qui va consommer du coup, parce qu'il y a aussi une question d'efficacité énergétique, on en a pas parlé, mais tu peux rappeler peut-être, d'ailleurs t'as mentionné mais t'as pas expliqué les chiffres, enfin tu les as pas donné, l'efficacité énergétique d'un moteur thermique et l'efficacité assez énergétique d'un moteur électrique. Tu connais les chiffres ou pas ?
Alors, ça dépend un petit peu du périmètre qu'on prend sur les moteurs thermiques. Les chiffres que j'ai souvent entendus, c'est en gros dans les 15 à 30% d'efficacité. Donc, ça veut dire que le reste, c'est de la perte. Donc, en gros, on a un rendement qui est assez mauvais sur les moteurs thermiques.
C'est les gens qui ne savent pas, en fait. C'est ça qui est fou.
Ouais, alors que sur l'électrique... sur la partie moteur, de mémoire, on est plutôt dans les 80-90%. En tout cas, on est sur un rendement sur cette partie-là qui est vraiment bien plus important. Donc, c'est là qu'il y a un différentiel aussi de consommation d'énergie qui est important entre véhicules thermiques et véhicules électriques.
Ça, c'est fou. Quoi. C'est-à-dire que quand tu fais le plein, tu as 70% de ton plein, parce qu'en gros, c'est ça, hein, qui est perdu. Quoi. Enfin,
ouais, c'est ça, par mauvaise efficacité du moteur ou de manière générale de la chaîne de traction, en gros, des véhicules qui est assez inefficace. Donc ça, le fait d'aller vers l'électrique, c'est une bonne chose de ce point de vue-là sur l'efficacité. Et après, sur le cinquième et dernier levier, d'ailleurs, qu'on a...
Tu m'as pas répondu sur le poids du véhicule. Hein.
J'y reviens juste après. Okay. Le cinquième levier, en gros, c'est de décarboner l'énergie. Donc de faire en sorte que l'énergie qu'on utilise, ce soit de l'énergie davantage bas carbone, donc de remplacer le pétrole par d'autres énergies moins carbonées. Donc là-dedans, il y a potentiellement l'électrique, il y a potentiellement l'hydrogène, les biocarburants ou le biogaz, à condition, bien sûr, à chaque fois que ces énergies-là soient produites de manière aussi bas carbone que possible et aussi durable que possible, ce qui n'est pas toujours le cas pour une grande partie de ces vecteurs énergétiques. Et pour revenir sur la partie du poids des véhicules, en gros, là où c'est un choix qui est difficile, la question que tu poses, c'est qu'en gros, est-ce qu'il faut mieux un véhicule avec la bonne technologie, entre guillemets, du coup, l'électrique, qui n'est pas une technologie parfaite, mais qui est en tout cas au moins la moins mauvaise qu'on a, la meilleure ou la moins mauvaise, mais sans sobriété, ou est-ce qu'il vaut mieux de la sobriété, mais avec une mauvaise technologie, en tout cas celle dont il faut se séparer. Donc forcément, comme c'est un peu un choix entre, à chaque fois il y a un côté positif, un côté négatif, c'est pas évident. Moi, la réponse que j'aurais envie de donner, c'est ben, un véhicule sobre et électrique.
Tu es normand, c'est ça.
Bah, je veux les deux à la fois, quoi. Cette fois-ci.
Non, mais en fait, il faudrait des véhicules légers. Léger et électrique.
C'est ça. Bah en fait, à partir du moment où on a un véhicule qui est léger, c'est dommage de ne pas le passer à l'électrique, d'autant plus que l'électrique est particulièrement adapté pour les véhicules les plus légers. En gros, quand on passe à des véhicules plus lourds, si jamais on passe aux véhicules utilitaires, aux poids lourds, qui vont faire à la fois des fois des longues distances et qui sont des véhicules qui pèsent plusieurs tonnes, qui emportent plusieurs tonnes aussi pour les poids lourds, voire dizaines de tonnes, là, l'électrique peut être plus compliqué à mettre en place parce que du coup, il y a des emports de batterie qui sont bien plus conséquents à dimensionner que pour un véhicule léger, donc que ce soit une voiture ou même une mini-voiture de 500 kg au moins, ou même que un vélo assistance électrique, où là c'est hyper pertinent pour l'électrique. Voilà, c'est, en tout cas, s'il y a besoin d'une assistance, autant qu'elle soit électrique et pas au pétrole ou à l'hydrogène, parce que là c'est hyper inefficace.
Comment on appelait ça ? C'était quoi les vélos moteurs
Les Solex ou les...
Et qu'est-ce que tu penses, du coup, de l'électrification des véhicules existants ? Tu sais, donc un véhicule qui soit thermique ?
Oui, rétrofité, du coup, le rétrofit.
Ouais.
Et bien, sur le papier, super solution. Sur l'impact environnemental, c'est positif aussi d'aller dans ce sens-là. Dans la pratique, la mise en œuvre, elle est plus compliquée. Notamment parce que sur les voitures, il y a un nombre de modèles assez énorme et qu'il faut prévoir un système d'homologation notamment et de un système adapté à chaque voiture pour rétrofitter chaque voiture. Donc c'est qu'en gros, on enlève le moteur thermique et à la place, on remplace par un moteur électrique plus une batterie pour pouvoir transformer ce véhicule thermique en véhicule électrique. Et ça veut dire que il faut que ce soit, pour que ça vaille le coup en termes de développement, en termes d'homologation qui peut coûter cher aussi, il faut que ce soit fait sur des modèles qui ont été vendus en grande quantité.
Ou alors des modèles très chers, c'est possible aussi.
Ou des modèles très chers, en effet, ou des voitures de collection, etc. En tout cas, il faut qu'il y ait une disposition à payer qui soit importante. Donc, soit parce qu'il y a beaucoup de modèles dans le marché à rétrofitter, soit parce que c'est des personnes qui sont prêtes à mettre beaucoup d'argent pour rétrofitter leur modèle, même si il y a peu d'exemplaires de chaque modèle. Donc, sur les voitures, en fait, il s'avère que malheureusement, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, par exemple, comparé à des véhicules utilitaires. voitures, où là, le nombre de modèles est moins diversifié, ou que sur les bus et les cars, où ça devrait davantage se développer à l'avenir. Et du coup, il y a des questionnements de coûts d'homologation et puis de mise en œuvre dans un temps qui est relativement limité, c'est-à-dire qu'en plus, la transition vers l'électrique, elle va être quand même relativement rapide. C'est-à-dire que notamment la fin de vente des véhicules thermiques, c'est 2035 en Europe, potentiellement même plus tôt pour certains constructeurs qui veulent aller plus vite. Donc ça veut dire que c'est moins de 15 ans. Donc ça veut dire que le rétrofit, il doit arriver sur un laps de temps assez court. Donc après 2035, il y aura encore des véhicules thermiques dans le parc. Donc il pourrait encore y avoir du rétrofit à ce moment-là. Mais dans tous les cas, c'est un marché qui est relativement temporaire. Donc ça veut dire qu'il faut réussir à le développer dans un laps de temps assez court sur les modèles qui sont en plus grande quantité. Et puis derrière, il peut y avoir une question un peu, non pas philosophique, mais de se dire, par exemple, est-ce que, sachant que ces dernières années, on vend de plus en plus de SUV, est-ce que c'est pertinent de rétrofiter des SUV thermiques en SUV électrique, sachant que du coup, on rétrofitera un véhicule peu efficace vers de l'électrique. Donc ça restera un véhicule moins lourd, vertueux, ouais. Voilà, assez lourd, qui demandera potentiellement des grosses batteries ou qui aura une autonomie plus faible que si c'était un véhicule léger. Donc c'est un peu un dilemme de savoir à quel point, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces véhicules.
Mais je te dis ça pour deux raisons. La première, elle est évidemment, parce que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais construire une voiture, ça demande énormément d'énergie. Oui. Alors, je connais pas exactement le coût énergétique de la construction d'une voiture, mais enfin, en tout cas, il y a les matières premières, et puis le processus de transformation des matériaux qui font que naturellement tu as besoin d'énergie, qui est généralement du pétrole aussi. Donc il y a ça, et puis après, il y a aussi une question beaucoup plus légère, mais néanmoins existante, autour du design des véhicules, tu vois, parce qu'en fait, tu peux aimer, j'en sais rien, une vieille Porsche ou une tu sais, les Golf, les premières Golf, ou je sais pas quoi, enfin, ouais. Peu importe, mais pour des questions de design. Ou contre-exemple de ce que tu aimais bien, de ce que tu disais, c'est un vieux Range Rover, tu vois, qui est, tu vois, ce que tu peux aimer aussi. Et les véhicules électriques, ils ont des designs qui sont, ou une Mustang, tu vois, enfin j'en sais rien, peu importe, mais tu vois, des véhicules, les gens, ils aiment bien quand même ces véhicules, le design de ces véhicules, tandis que les véhicules modernes, on a l'impression qu'ils sont un peu formatés, enfin tu vois, il y a aussi ce côté-là. Donc il y a d'un côté, effectivement, les matériaux, mais on en a un petit peu parlé, il y a aussi une question de design, tout simplement.
Ouais, sur le design, je dirais que potentiellement, si ça concerne essentiellement certains modèles en particulier, que ce soit des modèles de collection ou même des modèles particulièrement adaptés, particulièrement appréciés, pardon, en gros, ça veut dire que ça ne deviendrait pas une solution de massification très forte en termes d'impact climatique. Donc après, ça peut, pour les collectionneurs, s'ils sont prêts à mettre un coût plus important pour rétrofitter leur véhicule, limite tant mieux, mais c'est pas ça qui fera la grosse différence en termes d'impact climatique ou environnemental. Après, sur l'autre aspect des consommations de ressources, déjà dans l'idée, on a des ventes de voitures ces dernières années qui sont autour de 2 millions de voitures vendues par an.
En France,
il y a eu une baisse depuis 2020 avec le Covid et puis les pénuries qui entraînent des délais supplémentaires pour les livraisons de voitures, etc. Mais en gros, c'est ça l'ordre de grandeur. Et ça, c'est déjà le cas depuis pas mal d'années parce qu'on arrivait un peu à saturation du parc automobile. Et au bout d'un moment, on est surtout sur du renouvellement. Donc ce renouvellement-là, il y a la question de est-ce qu'on le fait plutôt de nouveau vers des véhicules thermiques ou vers des véhicules électriques. Donc quelque part, l'électrification, elle ne vient pas forcément rajouter des volumes en plus, si c'est plutôt qu'est-ce qu'on renouvelle. En gros, est-ce qu'on renouvelle au bout d'une quinzaine d'années, 16 ans à peu près en moyenne de durée de vie des voitures, est-ce qu'on les renouvelle toujours vers d'autres véhicules thermiques ou vers des véhicules électriques? Et après, l'autre point un peu sur en lien avec le rétrofit ou en tout cas son alternative de mettre un véhicule en gros à la casse pour en produire un nouveau, c'est que quand même il y a une bonne partie de récupération des matériaux dans les véhicules qui vont à la casse. Tout n'est pas non plus complètement brûlé ou jeté ou abandonné dans la nature. Il y a quand même des taux de recyclage qui sont ou de valorisation. Après, tout n'est pas parfait et c'est pas que du recyclage vertueux dans tout ça. Mais il y a quand même une partie de matériaux qui ne va pas complètement, quoi, qui va être en tout cas réutilisé. Ce qui fait que si jamais on reproduit une nouvelle, quoi, si on met une voiture à la casse, en tout cas, tout ne va pas être complètement gaspillé dans les matériaux de ces véhicules-là.
Il y a un sujet que moi je fais de la moto, donc, ouais. qui est complètement pas électrique. En même temps, il n'y a pas vraiment de moto électrique. En fait, il y a des scooters, mais pas vraiment de moto.
Ça se développe plus lentement sur les motos,
c'est,
en effet.
C'est très faible. Et moi, il y a deux dimensions. D'abord, je ne suis pas très certain de comprendre pourquoi ça ne se développe pas. Il n'y a que des scooters, mais en fait, quand tu fais de la moto, tu sais bien qu'il y a une énorme différence entre un scooter qui est un moyen de transport et une moto qui est du plaisir. Donc voilà, parce que ce n'est pas du tout le même genre de conduite. Et de deux, il y a une question de sécurité. Enfin, pour moi, en tout cas, j'aurais du mal, par exemple, à passer sur une moto électrique. Parce qu'en réalité, t'as déjà du mal à ce que les voitures te voient quand tu fais du bruit. Mais alors, j'aurais du mal à envisager d'être sur une moto électrique qui fait absolument aucun bruit, parce que je pense que j'aurais potentiellement beaucoup plus d'accidents, quoi. Même si aujourd'hui, bon, tu vois, j'ai mes 10 doigts, mes deux pieds, etc. Donc, je me suis jamais trop fait mal. Ouais. Mais il y a quand même cette dimension sécuritaire aussi. Pour les deux roues. C'est vrai qu'on en parle très peu finalement des deux roues quand il s'agit d'électrification. On parle du bruit, de la pollution sonore, mais on ne parle pas vraiment de l'électrification.
Ouais, mais après les deux sont liés. En tout cas, l'électrification, elle peut avoir un impact majeur pour les deux roues motorisées, justement de limiter fortement la pollution sonore.
Ça, c'est sûr.
Et ça, c'est clair que c'est un impact assez majeur. Après, c'est vrai que pour l'instant, ils n'ont pas été intégrés, notamment dans les objectifs, par exemple, de fin de vente à l'horizon 2035 des véhicules thermiques, alors que pour moi, ça devrait vraiment l'être, parce que à la fois, c'est une source de pollution de CO2 aussi, de pollution atmosphérique et de pollution sonore, où pour le coup, sur ces trois impacts sur lesquels le véhicule électrique sera meilleur que le thermique. Après, sur les motos, je pense qu'il y a par rapport au scooter, le scooter il va être utilisé souvent à des vitesses moindres, du coup avec des consommations d'énergie qui sont moins importantes que pour la moto, et sur des distances comme les distances sont plus faibles aussi, les besoins d'autonomie sont moins importants. Donc en gros, la taille de batterie va être moins impactante sur un scooter que potentiellement sur une moto. Après, pour une moto, c'est pas pour quoi. On peut quand même développer l'électrique, mais il y aura un petit peu plus cette contrainte de l'autonomie qui va un peu plus limiter par rapport aux usages actuels des motos que pour les usages du scooter.
Du coup, ça aura moins de sens, effectivement.
Enfin, en tout cas, c'est peut-être un peu plus long pour les constructeurs à se lancer là-dedans, et peut-être aussi pour les usagers de se dire, en effet, ça répond aussi à mes besoins si jamais il y a besoin de recharge un peu plus fréquente.
Ou faut abandonner le plaisir de la moto. Ça peut être une solution aussi, hein, je veux dire. C'est...
Oui, c'est ça. En tout cas, revoir certaines pratiques là-dessus. Mais c'est vrai que quand on regarde les... Après, sur la moto, c'est aussi les enjeux en termes de sécurité qui sont importants aussi. Après, est-ce que le fait d'avoir moins de bruit, ça changera beaucoup là-dessus ? Je sais pas, mais je pense que c'est assez secondaire.
En tant que conducteur, je peux t'assurer que le bruit fait beaucoup, beaucoup quand tu passes entre les voitures. En tout cas, bon, t'es pas censé parler entre les voitures, mais ça joue énormément. Je peux t'assurer que ça fait une grosse différence. Et en particulier, tu vois, quand on parlait des zones périurbaines, je pense en particulier aux banlieusards, en fait, le deux roues, c'est comme une solution assez magique pour accéder au travail, quoi, tout simplement. Ouais. Ou au lieu que tu dois être, qui doit être généralement dans la ville. Donc, une question que je voulais te poser, il y en a plusieurs, il y en a d'autres en tout cas, sur le côté social. Parce qu'en fait, le prix des véhicules électriques, c'est très étrange ce qui se passe, parce qu'on en fait de plus en plus, et pourtant le prix ne réduit pas du tout. Donc en fait, c'est extrêmement cher une voiture électrique. Et donc, il y a aussi une problématique d'intégration sociale. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter une voiture électrique, et quand tu demandes aux gens, quand ils ont un budget limité, ce qui est le cas d'à peu près tout le monde, quand ils doivent faire le choix, c'est pas le même choix, quoi.
Oui, complètement. Après, mon premier point, ce serait de dire, si je remplaçais dans tes phrases précédentes, quoi, si j'enlevais le mot électrique, tes phrases resteraient tout à fait justes, c'est-à-dire que la voiture est chère de manière générale et que la voiture n'est pas accessible à tout le monde, en particulier la voiture neuve, mais même de plus en plus la voiture aussi d'occasion. C'est qu'il y a une vraie problématique sociale de fond déjà sur l'accès à la voiture qui est en train de se passer ces dernières années, ces derniers temps, j'ai l'impression. Et là-dessus, l'électrique va en rajouter une nouvelle couche et quelque part, on accorde à l'électrique les problématiques sociales qu'il peut y avoir sur la voiture, alors qu'avant ça, il y a des choses très structurantes qui ne dépendent pas forcément de l'électrique. Pour donner quelques éléments de contexte, le marché des voitures, globalement, il est... En tout cas, pour les particuliers, il est très largement dominé par l'occasion. En gros, les véhicules neufs, j'évoquais tout à l'heure, c'est à peu près 2 millions par an. Il y a une bonne moitié sur ces 2 millions qui sont liés, qui sont achetés par des entreprises, donc des véhicules de société, des loueurs qui achètent ces véhicules neufs, etc. Et puis, une petite moitié, du coup, qui sont des véhicules neufs achetés par les particuliers. Et en gros, les particuliers les plus aisés. Donc, il y a moins d'un million de véhicules par an qui sont achetés par des particuliers. Même avec la baisse du marché là, depuis 2020, c'est même encore moins que ce qu'on avait. C'est moins que ce million de véhicules achetés neufs. Et en comparaison, le marché de l'occasion sur ces dernières années, c'est de l'ordre de 5,6 millions de véhicules. Donc ça veut dire que les particuliers, ils achètent facilement 6 fois plus sur le marché de l'occasion que sur le marché du neuf. Et le marché de l'occasion, bien évidemment, c'est moins coûteux. Et en fait, donc la majorité des gens n'ont pas forcément les moyens pour acheter sur le marché du neuf. Donc ça, c'est un premier élément qui est assez structurant. C'est que la majorité des gens achètent sur l'occasion et que le neuf n'est pas accessible à la majorité de la population. Un autre élément, c'est que la stratégie des constructeurs sur les dernières années, c'est de vendre moins de modèles, mais des modèles qui sont plus lourds, sur lesquels ils ont plus de marge. Donc c'est aussi de là que vient toute la tendance sur les SUV, c'est que c'est un choix stratégique des constructeurs. Et par exemple, la stratégie même du nouveau de Luca de Meo qui est le PDG du groupe Renault, c'est clairement ça, c'est de diminuer le nombre de ventes, mais que ce soit des modèles qui étaient encore il y a peu à 20 000 euros par modèle vendu, jusqu'à 27 000 euros dans les années à venir. Donc il y a vraiment une stratégie pour aller davantage vers du haut de gamme. Et ça, quelque part, c'est quelque chose qui est assez peu régulé, malheureusement, par les politiques publiques, alors que d'un point de vue de la collectivité, d'un point de vue global, on a un intérêt à aller vers des véhicules plus légers parce que moins coûteux et parce que moins d'impact environnementaux, sociaux, etc. Donc, il y a cette tendance-là qui aussi renchérit le coût des voitures neuves. Et à cela, s'est ajouté les baisses de vente pendant la crise du Covid, parce que moins de demandes, parce que économie en moins grande forme, des pénuries sur certains matériaux, donc notamment sur certains éléments électroniques, certains composants électroniques tels que les puces électroniques. Donc il y a eu des pénuries là-dessus qui ont aussi entraîné des délais de livraison supplémentaires. Il y a une hausse des coûts des matières premières, des coûts de l'énergie, etc., qui font que les ventes sont moins élevées et que ça tend le marché, qui devient aussi de plus en plus coûteux. Donc, en gros, le prix de vente des véhicules neufs est de plus en plus important. Et comme il y a ces délais sur le marché du neuf, ces coûts plus importants, les gens se sont reportés vers le marché de l'occasion, pour lequel les prix de vente ont aussi augmenté. Donc même le véhicule d'occasion devient de plus en plus difficile à accéder de manière générale. Donc finalement, on a tout un tas de tendances de fond qui font déjà que la voiture est de plus en plus difficile d'accès financièrement, sans parler du fait que les coûts de l'énergie ont augmenté aussi pour l'usage des véhicules ensuite. Et là-dessus se rajoute l'électrification des véhicules, pour lesquels aujourd'hui, ils ne sont pas disponibles en gros sur le marché de l'occasion. Alors il y en a quelques-uns, en plus ça reste très coûteux même sur le marché de l'occasion, mais globalement aujourd'hui il y a trop peu de véhicules électriques dans le parc pour qu'il y ait un marché de l'occasion sur l'électrique qui soit très développé. Donc, on a une vraie problématique d'accès à la voiture électrique, sachant qu'il faut l'acheter sur le marché du neuf, comme ce n'est pas disponible sur l'occasion, et que c'est à l'achat que la voiture électrique est plus élevée, et quoi, le coût est plus élevé. Par contre, à l'usage, c'est beaucoup moins élevé. Donc, sur l'ensemble du cycle de vie de la voiture électrique, dès aujourd'hui, elle est moins coûteuse que la voiture thermique, sauf qu'elle demande un investissement plus important à l'achat. Donc, on a quand même une conjonction d'éléments qui vont pas dans le bon sens pour rendre la voiture électrique abordable.
C'est ça.
Et pour moi, il y a deux éléments principaux pour réussir à contrecarrer un peu cette tendance-là. C'est premièrement aller vers des véhicules qui sont plus légers, qui sont moins chers. Pour donner juste deux ordres de grandeur de coût des voitures électriques, une voiture électrique de l'ordre d'une tonne, donc plutôt une voiture électrique assez légère par rapport aux voitures qu'on peut avoir actuellement, c'est de l'ordre de 20 000 euros. Une voiture électrique de l'ordre de 2 tonnes, c'est 50 000 euros. Donc ça, ce sont les prix hors aide. Donc après, quand il y a des aides,
mais
ça
qui va les construire, ces voitures, si ce n'est pas Renault, par exemple ? C'est-à-dire qu'on va les acheter en Chine, qui va faire ces voitures ?
Aujourd'hui, un peu tous les constructeurs, de toute façon, se tournent vers l'électrique. Parce
oui,
que,
mais
notamment,
les voitures légères, je veux dire. Tu disais Renault, leur stratégie...
Les voitures légères, en effet, c'est une grosse question. C'est que pour moi, les tendances, les stratégies des constructeurs vers les véhicules les plus lourds, ils ont un intérêt de court terme pour, en faisant plus de marge, etc. Mais potentiellement, ça va se retourner contre eux comme stratégie à plus long terme. Parce que si jamais leurs véhicules deviennent inaccessibles pour la majorité de la population, ils vont perdre leur clientèle. Et donc, soit ils vont laisser une porte ouverte énorme pour les véhicules chinois qui commencent à arriver sur le marché européen, sur le marché français, mais de manière assez faible pour l'instant quand même, quoi. C'est presque un peu trop fantasmé, en tout cas par rapport au niveau de vente des constructeurs chinois pour l'instant sur le marché français notamment. Et aussi pour l'instant, les véhicules, les constructeurs chinois, par exemple au Mondial de l'Auto, ils ont présenté certains véhicules, mais plutôt des gros véhicules aussi. Donc finalement, ils n'ont pas trop investi un peu ce marché resté assez libre où il y a une demande des consommateurs, mais il y a assez peu d'offres pour l'instant. Et bien moi, ce que j'espère, c'est que ça va être des constructeurs français, alors soit des startups qui se lancent actuellement dans des véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture, comme j'évoquais tout à l'heure, soit que les constructeurs vont davantage se positionner, les constructeurs français notamment vont davantage se positionner sur ce marché. On voit qu'il y a des tendances, par exemple la Citroën Ami a un succès qui est de plus en plus important. La Renault Twizy, bon, elle un peu moins, mais il y a un peu son successeur qui s'appelle la Mobilize Duo, qui est du groupe Renault également, qui est un véhicule très léger de ce type-là. Mais pour l'instant, les constructeurs ont un peu abandonné ce segment des voitures légères qu'il faudrait qu'ils reprennent, à mon avis, dans les années à venir, si jamais ils veulent que la mobilité électrique soit accessible au plus grand nombre et que la voiture ne devienne pas un bien de luxe, qui redeviendrait accessible qu'aux plus aisés, comme c'était le cas au début de l'automobile.
Non, et puis, en fait, même si j'envisage mon frère, en l'occurrence, qui vit en banlieue, et je le verrais très mal, il me dirait, mais c'est quoi ce pot de yaourt si tu lui fais filer une voiture de deux places, non, mais je peux pas transporter ici, même s'il fait jamais rien, mais au final, il dirait toujours, imagine le jour où j'aurais besoin voilà. Mais en tout cas, ce qui serait super aussi avec des voitures intermédiaires, finalement, je vais appeler ça comme ça. J'invente des mots.
De véhicules intermédiaires, en tout cas. Ça
fluidifierait aussi le trafic, c'est-à-dire que c'est des voitures qui prennent moins de place sur la route. Il y a aussi ça, non ? Enfin, je veux dire, si elles sont moins larges, ça veut dire que potentiellement, il peut y en avoir plus.
Complètement. En tout cas, ça prend moins de place, notamment en stationnement, en circulation. Si jamais elles sont, si à jamais elles peuvent pas faire de l'interfile, disons comme les motos,
non,
comme les vélos,
on
etc.
Est pas là, bien sûr.
Si on n'est pas là, potentiellement, elles vont être un petit peu moins longues. Donc, dans les embouteillages, ça prend un petit peu moins de place. Pour autant, ce ne sera pas une réduction forcément majeure.
Mais tu
pourras
mettre plus de voitures. Bah, admettons sur trois fils, tu pourras peut-être en mettre quatre, quoi, techniquement. Non.
En termes de largeur,
ouais,
ou en termes de. Potentiellement, après, il faudrait que tout soit suffisamment
faible. Que les gens conduisent bien, c'est ça que tu veux dire.
Mais en tout cas, il y a d'autres co-bénéfices sur les enjeux de transition qu'on a évoqués tout à l'heure à développer des véhicules plus légers. C'est en termes de consommation d'espace, c'est en termes de consommation de ressources de manière générale. Pour donner un point de comparaison, en gros, une Renault Zoé, qui était jusqu'à récemment, en tout cas, le véhicule électrique le plus vendu en France, une batterie de Renault Zoé, c'est de l'ordre de 50 kWh. Une batterie de très gros SUV ou de pick-up électrique, c'est 100 kWh. donc deux fois plus. Donc déjà, rien qu'entre les deux, il y a un intérêt à aller plutôt vers la citadine. Si maintenant, on passe à la Renault Twizy, à la Citroën Ami que j'évoquais, avec plutôt 60-80 km d'autonomie annoncée, là, on est sur des batteries plutôt de 5 à 6 kWh, c'est-à-dire quasiment 10 fois moins. Donc, en termes de consommation de métaux qui peuvent être assez critiques, tels que le lithium, le nickel, le cobalt, le cuivre, et aussi pour partie qui sont des métaux qui sont nécessaires pour les batteries, eh bien, on divise très fortement les quantités nécessaires. Donc, sur ces problématiques de consommation de ressources, de consommation de métaux, il y a des co-bénéfices qui sont extrêmement forts. On a aussi des co-bénéfices en termes de pollution de l'air parce que la pollution atmosphérique, il y a les émissions à l'échappement, comme je les ai évoquées tout à l'heure. Il y a aussi des émissions hors échappement qui, notamment pour l'abrasion des pneus et de la chaussée, dépendent beaucoup du poids du véhicule. Mmh. Donc si on va vers des véhicules plus légers, bien évidemment, on aura beaucoup moins d'émissions liées à cette abrasion des pneus et de la chaussée.
Mais ce que je comprends, du coup, c'est qu'il faudrait que l'État, puisqu'il y a des aides à l'achat de véhicules électriques, ils mettent le poids sur des véhicules peu lourds.
C'est ça.
Mais c'est ce qu'ils font pas.
Ouais, c'est ce qu'ils font pas. En gros, jusqu'à maintenant, de manière générale, sur les politiques de mobilité, de transport, il y a un gros focus sur la technologie et pas assez de focus sur la sobriété. Si on divise un peu en deux grands leviers parmi les cinq que j'ai évoqués tout à l'heure, les premiers sont plutôt des leviers de sobriété, donc modération de la demande, report modal, covoiturage, et puis toute la partie véhicule plus léger, des vitesses moins importantes. Ça, c'est toute la partie sobriété de la transition. Et puis l'autre partie de la transition plus technologique, notamment sur la voiture, c'est le passage à l'électrique qui permet d'être plus efficace, qui permet de sortir du pétrole aussi. Et en gros, le grand discours public et les politiques publiques qui sont mises en place, c'est de dire la voiture électrique et la voiture écologique, zéro émission, qui permettra de décarboner les transports, etc., sans qu'il y ait une vision plus large de la transition et sans que la place de la voiture soit davantage remise en question. Mais selon moi, on en arrive un peu à un point charnière où ce n'est plus qu'une problématique très dérangeante pour la transition environnementale, mais même d'un point de vue de l'accès de la voiture à la population. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le grand discours qui est mis en avant, c'est qu'il ne faut pas toucher à la bagnole. Les gens sont dépendants à la voiture. Si on met une contrainte sur le poids des véhicules, on va les pénaliser. Si jamais on réduit la vitesse, on va les pénaliser. On ne veut pas faire ça. Quand ça a été fait, ça a été aussi mal fait,
jaunes,
du coup, gilets jaunes, etc. Et du coup, c'est un peu, on fait une politique des transports et des mobilités qui est plutôt une politique industrielle orientée vers les constructeurs. Les constructeurs, ils disent, on a le plus de marge sur les véhicules les plus lourds. OK, à la limite, mettez-nous l'électrique. Et encore, ça a été en partie contesté. Mais un peu le deal, j'ai l'impression que c'est de dire, au moins, on touche pas au poids des bagnoles. Vous nous laissez les véhicules sur lesquels il y a le plus de marge. Ils ont mis un petit bonus, un petit malus sur le poids des véhicules à partir de 1800 kg, mais ce qui représente une part complètement infime des ventes. Donc en gros, c'est comme s'il n'y avait pas de régulation.
Et du coup,
elles
vont tous faire 1750 kg, quoi, j'imagine.
C'est ça. Donc, on fait des voitures qui sont trop lourdes, mais au bout d'un moment, en fait, ce n'est même pas rendre service aux automobilistes. Parce que du coup, la majorité des gens qui n'ont pas les moyens pour acheter sur le marché du neuf, et ben ils vont se retrouver avec un marché de l'occasion qui est hyper cher, qu'avec des véhicules hyper lourds qui consomment beaucoup d'énergie, qui sont chers aussi à l'usage. Donc quelque part, on va rendre moins accessible la voiture de manière générale, alors que l'objectif initial presque des politiques publiques, c'était de dire non, on va quand même pas contraindre la voiture parce que les gens ils sont dépendants. Donc je trouve il y a une sorte de retour de bâton qui est en train d'arriver actuellement. Ça va être intéressant de voir comment réagissent les politiques publiques à ça, comment les constructeurs vont s'y adapter. Mais pour moi, là, il y a une vraie problématique qui est de plus en plus criante avec l'inflation générale qu'il y a et l'inflation notamment sur le coût de la mobilité, sur le coût de la voiture.
Et la dernière question, enfin, pas la dernière, parce que la dernière, c'est toujours le fameux « ouvre la porte, ferme la porte, machin », mais une question qu'on n'a pas du tout abordée, c'est la question des trottinettes. Je parle pas des trottinettes individuelles, dans le sens individuel que les gens possèdent. Je parle plus des trottinettes qui sont en libre service.
Ouais.
Parce que ça a été extrêmement développé. Ensuite, ça a été un peu freiné. On a réduit le nombre d'opérateurs. Ouais. Et puis maintenant, en tout cas à Paris, il est question de les supprimer. Alors qu'en fait, Paris, c'était un peu la ville témoin, si je me trompe pas trop, en Europe, sur ces véhicules doux, entre guillemets.
Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est vrai que ça a été beaucoup critiqué aussi parce que les usages sont pas forcément des plus vertueux. La question de la sécurité, la question de l'occupation de l'espace, ce qui est presque assez amusant à observer, en tout cas contradictoire par rapport au fait qu'on a des voitures de plus en plus grosses qui prennent 10 mètres carrés quasiment d'espace. Et puis, en gros, il y a cette nouveauté des trottinettes et on se dit « Oh là là, ça prend énormément d'espace », alors que comparé à nos voitures, de manière générale, mais encore plus aux voitures récentes les plus lourdes, c'est rien. Mais il y a toujours un peu cette focalisation sur la nouveauté qui donne l'impression que « Oh là là, il y a impact extrêmement fort qui arrive en termes de sécurité, en termes d'occupation d'espace », alors qu'on voit même plus forcément qu'en ville, bah, y a des personnes seules dans une voiture énorme qui est hyper dangereuse pour les autres usagers. Donc je trouve que c'est déjà intéressant de remettre un peu de perspective par rapport à ça. Mais pour autant, les trottinettes, oui, en fait, ça pose vraiment la question, encore une fois, de l'usage, quoi. C'est-à-dire, est-ce que ces trottinettes électriques, elles vont remplacer des véhicules qui sont plus impactants, notamment est-ce qu'elles vont remplacer la voiture ? Pour beaucoup, elles vont être utilisées en intermodalité, en tout cas pour les trottinettes qui sont possédées. Elles vont être utilisées en intermodalité avec les transports en commun.
Elles peuvent remplacer un scooter, typiquement.
C'est ça. Donc, typiquement, ça peut remplacer ce type d'usage-là. À ce moment-là, d'un point de vue de la transition, on est sur quelque chose de positif. Mais potentiellement, elles peuvent aussi remplacer de la marche, du vélo ou en tout cas des modes de transport actifs aussi qui ont cet avantage de santé publique. Et là, à ce moment-là, on est sur des évolutions qui sont plus aussi favorables. Donc, après, là où ça demandait vraiment de la régulation, c'est qu'on était sur un développement un peu anarchique, donc potentiellement plein de nouvelles boîtes qui se lancent avec un modèle économique assez contestable, ou en tout cas c'est un peu le modèle économique qui peut être dominant sur beaucoup de start-up de mobilité actuellement, ou même au-delà de la mobilité, d'essayer de prendre le marché le plus vite possible, donc de balancer, d'être à perte sur tout le début du lancement de leurs opérations, d'envahir l'espace public de plein de trottinettes en espérant que ce sera leur service qui dominera à l'avenir. Jusqu'à ce que les services ne prennent quoi, que l'activité soit pas suffisamment rentable pour réussir à maintenir toutes ces plateformes en plus qui se font concurrence. Donc c'était une bonne chose de réguler. Après, ce qu'il faut voir, c'est à quel point il peut y avoir à partir de cette régulation, un usage assez vertueux quand même qui est mis en place et qui peut vraiment permettre d'avoir une solution complémentaire en ville à ce qui existe déjà, plutôt que d'avoir quelque chose qui se développe de manière un peu anarchique et puis en remplacement de modes potentiellement plus vertueux. Après, aujourd'hui, quoi, on est sur un mode de transport qui, a priori, en termes de potentiel à plus long terme, à mon avis, n'est pas un potentiel extrêmement fort. Ça s'est développé essentiellement à Paris, un peu dans d'autres grandes villes, en tout cas pour les systèmes en libre-service. Ce qui est en tout cas un marché qui est assez faible si on regarde les enjeux de mobilité, là où il y a les plus grosses dépendances à la voiture notamment, c'est venu se rajouter dans des zones où il y a déjà beaucoup d'alternatives quelque part. Après, les usages sont un petit peu différents sur les trottinettes qui sont possédées par les usagers. Et là, comme je dis, si ça permet, par exemple, de plus facilement aller utiliser les transports en commun en rejoignant ces transports en commun en trottinette électrique, par exemple, pourquoi pas ? Là, il peut y avoir des usages assez pertinents. Et visiblement, c'est ceux qui utilisent les trottinettes électriques n'auraient pas utilisé, par exemple, le vélo assistance électrique. C'est potentiellement des usagers qui peuvent être assez différents. Et à ce moment-là, la complémentarité peut être intéressante. Si on remplace le vélo assistance électrique par la trottinette électrique, globalement, c'est des modes qui se ressemblent sur pas mal d'aspects, qui sont assez sobres en ressources de manière générale, qui prennent assez peu d'espace. L'avantage du vélo assistance électrique, c'est le côté activité physique, comme j'évoquais, le bénéfice en termes de santé. Mais si on est dans tous les cas sur des usagers qui avant n'étaient pas vraiment au vélo assistance électrique ou qui n'y seraient pas passés, à ce moment-là, on peut développer des usages assez vertueux de ce genre de trottinettes ou d'autres engins de ce type-là, surtout si c'est en remplacement de la voiture, bien évidemment, là, il y a un intérêt qui est assez majeur. Et c'est pour beaucoup utilisé, en tout cas visiblement, par des CSP, moins en tout cas par des personnes qui sont peu fortunées, qui vont utiliser ce type d'engin, en tout cas de ce qu'on en voit pour l'instant en termes d'usage. Après, comme toujours, il faut faire des enquêtes. Quels sont vraiment les usages? Qu'est-ce que ça remplace? Et est-ce que c'est vertueux? Donc, c'est ça qui vient déterminer aussi à quel point on est sur des choses vertueuses ou
d'ailleurs,
pas.
J'avais vu une étude, quand tu parles de CSP, ça me pensait aux scooters. Tu sais, à Paris, maintenant, les places de stationnement sont extrêmement chères pour les deux roues. Et l'étude qui justifiait ça, c'était de dire non, mais en fait, les gens en deux roues, ce sont des CSP+. Et en fait, c'est très étrange parce que mon ressenti comme ça de banlieusard, c'est que quand même, il y a beaucoup de banlieusards qui utilisent le scooter pour rejoindre Paris. Et j'étais très surpris de cette stat. Alors, je sais pas comment ils ont fait l'étude et je sais pas si c'est vraiment vrai, mais j'étais assez étonné.
Après, il y a beaucoup de banlieusards. En effet, après, il y a aussi beaucoup de banlieusards qui sont aisés, notamment en région parisienne. Mais après, ça dépend dans quel département on va et dans quelle ville. Mais il y a, dans le 92, par exemple, dans les Hauts-de-Seine, il y a 78, beaucoup de personnes assez aisées. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de villes. Globalement, les banlieues assez proches, potentiellement, peuvent être des banlieues assez aisées. On a un peu cette image des centres-villes qui sont les plus coûteux et dès qu'on est un peu plus en périphérie, ce sont des populations plus pauvres. Et en fait, quand on regarde des cartes ou qu'on regarde pour différentes villes, quelque part, il y a aussi toute une partie de population assez aisée qui cherche à avoir à la fois les bénéfices de la ville, c'est-à-dire être assez proche des centres-villes, tout en ayant les avantages de la campagne, notamment un petit jardin, etc., ou d'être un peu plus au calme, avoir un petit peu plus de place, etc. Et potentiellement, du coup, certaines banlieues, en tout cas, ou certaines couronnes périurbaines qui restent assez proches des villes, peuvent répondre un peu à ces doubles attentes de à la fois proximité et puis retrouver un peu de nature ou un peu plus de calme, en tout cas, que dans le centre des villes, où il y a aussi une partie de la population plus pauvre qui peut aussi habiter dans ces centres-villes. Donc ça, c'est un peu sur l'aménagement du territoire, un peu une idée reçue qu'on peut avoir dans certains cas. Alors après, il y a aussi des banlieues qui sont plus pauvres, notamment quand on regarde les cartes et qu'on voit certaines villes de Seine-Saint-Denis, on voit aussi que ce sont des banlieues qui sont plus pauvres qu'à Paris, mais en tout cas, le paysage global de centre-ville pour les riches et de banlieue pour les plus pauvres, en tout cas, un peu à contraster. En tout cas, il y a différentes analyses là-dessus. Et après, sur l'usage des deux roues motorisées, du coup, ça peut se retrouver en partie ou pas.
Je
pense qu'il y a potentiellement des usages assez différents, mais tu l'évoquais entre les motos, les scooters ou d'autres types de...
Plusieurs moyens de transport, bien sûr.
Les usages et les types de personnes qui utilisent ces deux roues motorisées peuvent être assez différenciés selon les types de roues.
Super. Merci beaucoup, Aurélien.
De rien.
Je voudrais savoir, donc le podcast s'appelle Vlan. À quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte?
Claquer la porte, je dirais le technosolutionnisme.
Ouais.
Le côté, on va changer de motorisation et ça va tout sauver, ou globalement la technologie va nous sauver, qu'on retrouve sur la voiture électrique. Comme je disais, l'électrique, c'est indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques. Pour autant, c'est pas suffisant. Donc, avancer la voiture électrique comme la solution magique, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter, qui malheureusement est trop présent dans les discours et dans les politiques publiques. L'hydrogène, c'est un peu la même chose. L'avion zéro émission, l'avion vert qu'on peut nous vendre, et également, c'est aussi, ça fait partie aussi de ce récit du technosolutionnisme qui est vraiment très négatif pour la transition, c'est-à-dire que du coup on se pose pas les vraies questions qu'on devrait se poser, notamment toutes les questions de sobriété. Donc pour moi, c'est aussi ouvrir la porte pour le coup à ces politiques de sobriété qu'il faudrait mettre en place, qui peuvent aussi amener tout un tas créer aussi d'autres imaginaires qui peuvent être vraiment très positifs aussi sur ces politiques de sobriété, de changer les modes de vie, de changer les pratiques vers des choses qui peuvent être aussi tout à fait souhaitables, de aussi innover, mais pas de penser que l'innovation technologique, mais penser aussi l'innovation sociale, comment on peut mieux partager, mieux coopérer, comment on peut développer d'autres types de véhicules qui sont davantage sobres, comment on restructure notre territoire. Il y a plein de questions derrière ça qui sont passionnantes et qui peuvent être hyper intéressantes à discuter de manière collective. Et comme on l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat, quand les citoyens sont informés et discutent ensemble sur les politiques, notamment de mobilité ou les politiques climatiques, les politiques de transition, on voit qu'ils ouvrent la porte à tout un tas aussi de politiques de sobriété bien plus ambitieuses que ce qu'il y a aujourd'hui. Et puis, les gros avantages aussi des politiques de sobriété, c'est sur les différents impacts des transports, les différents défis. Eh bien, si jamais on est plus ambitieux sur la sobriété, on aura tout un tas de co-bénéfices au-delà de la transition climatique, de la transition énergétique, que ce soit en termes de santé publique, en termes de moindre bruit qu'il y aurait en ville, donc des villes qui sont plus agréables, qui donnent davantage de place aux autres modes de transport, à d'autres types d'activités. Et ça, je pense que c'est un horizon hyper souhaitable dont j'ai envie en tout cas d'ouvrir la porte davantage. J'aimerais que voilà, on regarde davantage tous ces aspects sur lesquels il y a des marges de manœuvre, de progression qui sont assez énormes par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui.
Trop bien. Merci beaucoup Aurélien.
De rien, merci de l'invitation.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !